C'est Christine Cossette au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de Croire d'hier à demain, réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Didier Canepil, professeur de théologie morale et de bioéthique au Collège universitaire dominicain d'Ottawa et professeur invité à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Didier travaille dans plusieurs hôpitaux, dont l'Institut de santé mentale de Québec et le Centre de santé et des services sociaux de Gatineau. Il y travaille comme personne ressource en éthique sur les comités d'éthique clinique et d'éthique de la recherche. Son champ d'étude porte sur les questions et les enjeux éthiques, particulièrement dans les domaines de fin de vie et de la psychiatrie. C'est dans le prolongement d'un cours que Didier Canepil a donné ici à l'Institut de pastoral des Dominicains que nous le recevons à cette émission Croire d'hier à demain. Notre éthicien s'est particulièrement penché sur une œuvre d'Éric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose. Vous savez, ce récit qui raconte l'histoire d'un petit garçon condamné à mourir dans quelques jours. Alors, comment ce récit vient jeter les bases d'une réflexion sur l'accompagnement des malades en fin de vie? C'est donc avec joie que je reçois Didier Canepil. Didier Canepil, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à venir parler de l'œuvre d'Éric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose. Vous avez étudié ce récit, vous avez donné un cours ici à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal sur cette œuvre. Alors, dites-nous dans quelle optique vous travaillez ce texte-là?
Alors, l'optique que j'ai prise, en fait, c'est celle véritablement d'essayer de penser à partir de ce petit livre-là une démarche d'accompagnement. Je crois qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Il y a un récit qui met en scène des personnages, qui met en scène des situations, qui met en scène beaucoup de thèmes. Et je crois qu'il y a là une démarche assez exemplaire pour l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et même, je pense, plus généralement pour l'accompagnement des personnes en état de fragilité. Ce petit livre était finalement l'occasion d'essayer de réfléchir sur ce thème important de l'accompagnement.
Oui, ce récit, nous savons qu'il a été publié dans plusieurs langues, à des milliers et à des milliers d'exemplaires. Alors, comment expliquez-vous cet emballement pour un livre qui parle d'abord de foi chrétienne?
Je pense que c'est surtout de la manière dont il aborde la question de la foi chrétienne. Mm-hmm. Je crois que c'est un livre, justement, qui aborde la question de foi, de question de spiritualité, d'une manière, on pourrait dire, très délicate, et qui les inscrit dans quelque chose de très réel, de très incarné, dans des situations que vivent ces personnages. En fait, ce petit livre fait partie plus globalement, je crois, d'une trilogie de livres d'Éric-Emmanuel Schmitt qui s'intéresse aux différentes religions.
Oui, et qu'il appelle le cycle de l'invisible.
Le cycle de l'invisible, c'est effectivement. Uh-huh. Et donc, on voit celui-ci porte justement sur des thèmes chrétiens. Mais ce qui est fort intéressant, je pense, c'est qu'il les incorpore à l'intérieur même d'un vécu, et en particulier du vécu dans une phase importante de l'existence qui est la fin de vie. Alors je crois que c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce livre-là. Je crois qu'on est d'abord et avant tout touché par le récit, par la situation qui est vécue, et se greffe à ça des thèmes justement sur la foi chrétienne et comment elle peut éventuellement apparaître ou jouer dans ces moments importants de la vie.
Mm-hmm. Alors parlons de ce récit. Alors, de quelle histoire s'agit-il d'abord?
Alors, c'est une histoire, un récit qu'on découvre principalement à travers des lettres. Les lettres d'un petit enfant de 10 ans. Cet enfant est atteint d'un cancer, d'une maladie donc incurable. Il lui reste quelques jours à vivre, je crois que c'est une dizaine de jours à vivre, ou une douzaine de jours à vivre. Et ce petit enfant, finalement, va être amené dans le cadre d'un accompagnement par une dame bénévole à écrire un certain nombre de lettres à Dieu, et on va voir justement quelle est la dynamique de ces lettres-là. Donc, ce qu'on découvre finalement, c'est l'univers de la fin de vie et l'univers de la fin de vie dans un hôpital pour enfants, avec toutes les thématiques, toutes les angoisses, tout ce qui peut se passer dans cette vie-là. Et à travers cette expérience, se construit également des relations humaines, se construit une relation à Dieu. Donc voilà, c'est un petit peu le propre de ce récit-là.
Oui. Alors, vous dites donc que ce récit est construit sur un ensemble de lettres qu'Oscar écrit à Dieu, hein, des lettres qui commencent toujours par « Cher Dieu ». Alors, que visent ces lettres-là adressées à Dieu?
Je crois que ces lettres-là ont pour fonction, on pourrait dire, pas d'abord une fonction religieuse ou une fonction spirituelle. Je crois que la première fonction, c'est de permettre à ce petit enfant de faire face au réel, de faire face à ce qu'il vit, alors qu'il est dans un univers, justement, l'hôpital, où on va avoir un certain déni par rapport à cette réalité de la mort prochaine. Ces lettres-là vont devenir des lieux d'authenticité, où il va pouvoir se révéler tel qu'il est, révéler ce qu'il vit. Et en particulier, je crois que les lettres s'attachent beaucoup à la partie relationnelle. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans ce récit-là. On a vraiment l'idée d'un développement d'une relation. Une relation dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois le récit et le lien. Oui. Et c'est à travers toute une série de récits, en particulier des récits qui sont faits à Dieu comme destinataire, que se crée un lien. Un lien que se crée, on pourrait même dire, du lien avec lui, du lien avec les autres. Donc je crois que c'est ça qui est finalement visé aussi par ces lettres à Dieu. En même temps, à travers ces lettres, on va découvrir un certain éveil à la foi et un Dieu qui finit par, comme le dit Eric Emmanuel Schmitt, qu'on fait exister parce qu'il existe relationnellement. Dans le fond, Dieu commence à exister sous la forme d'une relation avec la personne. Alors voilà, donc je crois que le thème clé de ces lettres-là, c'est le thème de la relation.
Dans ce livre-là, on a évidemment des réflexions très profondes, mais c'est drôlement tissé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit des combats de lutte. Hein? On met en scène Mamie Rose, qui fait croire à Oscar qu'elle est une ancienne lutteuse. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce que ces récits-là ont comme fonction dans le récit?
Ces récits de lutte de Mamie Rose, donc cette dame Rose qui finalement va accompagner Oscar et qui pour Oscar va devenir justement cette Mamie Rose. Donc, elle va exister encore là. C'est une autre façon de montrer à quel point les gens existent en relation avec et elle acquiert son identité de Mamie Rose à travers la relation. Cette Mamie Rose, finalement, est une dame qui a énormément de ressources, énormément probablement aussi d'expérience, et elle a fait l'expérience, je crois, de la souffrance, de la fragilité. Donc, elle va proposer un accompagnement qui se fait dans une démarche dans laquelle elle va sans cesse essayer d'arriver avec un certain nombre de récits au moment où il y a des blocages. Donc, la lutte, dans le fond, ce sont des récits de lutte, mais si on regarde bien les combats qui sont racontés, ce sont jamais des combats dans lesquels il s'agit d'affronter de face ou de manière violente l'autre, mais d'essayer de trouver une astuce pour éventuellement contourner ou déplacer une difficulté. Et si on regarde bien dans le petit livre, Mamie Rose va reprendre le fil de ces récits de lutte, chaque fois à un moment crucial où il risque d'y avoir un blocage. Oui. Et derrière ces récits, finalement, c'est une certaine philosophie de la vie, une certaine philosophie, on pourrait dire, de l'affrontement, de l'épreuve qu'on peut découvrir et qui permet à Oscar de se resituer et de trouver lui-même, par lui-même, des ressources pour faire face à cette épreuve, à cet adversaire qui est face à lui. Ça peut être la maladie, ça peut être l'indifférence des autres, ça peut être le silence, ça peut être toutes sortes d'épreuves qu'il va vivre dans ces jours-là.
Dans la deuxième lettre, Mamie Rose propose à Oscar un jeu auquel il jouera jusqu'à sa mort. Racontez-nous un peu en quoi consiste ce jeu.
Alors voilà, donc on sait assez tôt dans le récit que finalement Oscar est condamné, qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il lui reste une dizaine de jours à vivre. Et Mamie Rose va utiliser en fait un genre de petit stratagème pour essayer de transformer ce temps de la fin qui est marqué par l'échéance en un temps qui devient fructueux, un temps de vie. Pour pouvoir faire cette transformation-là, elle va proposer à Oscar une vieille légende qui disait que finalement, la manière dont on vivait les 12 derniers jours de l'année, c'était, allait être la manière dont on vit les 12 mois, les 12 prochains mois. Alors elle va le transformer pour justement encore donner plus de temps à Oscar en lui disant « Chaque jour que tu vis, imagine que c'est 10 années de ta vie. » Autrement dit, Oscar va passer et va devenir ce petit enfant de 10 ans qui est condamné à mourir dans 10 jours, va vivre à travers ces récits, à travers cette imagination, cette créativité, comme un centenaire.
Au fond, il vieillit de 10 ans par jour.
Voilà, il vieillit de 10 ans par jour et il va vivre pleinement chacune de ses journées comme une décennie de la vie avec ce qui marque normalement les différentes décennies de quelqu'un. Donc, ces récits-là vont permettre ce stratagème, c'est une ouverture du temps. Hein, c'est un rapport, dans le fond, d'essayer de donner du temps au temps et de transformer quelque chose de très intéressant. Le temps qui était chronométrique, hein, le temps était chronométré, il n'en reste presque plus, il est condamné à 10 jours, voilà que ça devient un temps chronologique. C'est un temps qui va pouvoir être habité pleinement par des expériences. Finalement, la durée va être la même, mais le temps va, au lieu d'être subi, il va être habité. Et donc, il se passe véritablement un temps qui devient chronologique, on pourrait même dire un temps qui devient biographique, dans toute sa densité du vécu et de l'expérience.
Est-ce qu'on peut dire que c'est ce jeu-là qui rend crédible la maturité des réflexions d'Oscar, qui sont, il faut le dire, parfois à hauteur d'adulte, et on se dit parfois, c'est pas possible qu'un petit garçon de 10 ans puisse avoir une réflexion aussi intense?
Un enfant de 10 ans a peut-être beaucoup plus de maturité vis-à-vis de certains thèmes, justement, de la vie que pourraient parfois l'avoir les adultes qui vont entrer peut-être dans une certaine démarche de déni ou d'évacuation de ces questions-là. Et je crois que sur les questions, justement, de la mort et de faire face à la réalité, je crois que peut-être que l'enfant de 10 ans a justement, et on le voit avec Oscar, a cette maturité-là. D'ailleurs, il est le premier à se rendre compte qu'effectivement, il va avoir une certaine impasse par rapport aux soins. Et ce qui va lui faire le plus mal n'est pas justement tant cette échéance de la mort que, d'une certaine façon, le déni qui est autour de lui par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression que les récits vont certainement l'aider à faire face au réel et à gagner une certaine maturité, parce que la maturité, c'est quoi? C'est d'une certaine façon une assomption, une acceptation du réel. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plus une révélation, une mise en mots de cette maturité que le gain de la maturité elle-même. Je crois que la maturité, il l'a à la base. Il peut faire face. Il a la ressource pour faire face à ces éléments-là avec l'accompagnement de Mamie Rose, et que finalement, les récits vont donner une occasion de mettre en mots et en structure cette maturité-là.
Oui. De quel type de souffrance est-il question d'abord dans Oscar et la Dame Rose?
Dans Oscar et la Dame Rose, on a un portrait, on pourrait dire, de la souffrance sous toutes ses formes. Il y a certainement la douleur, on pourrait dire, on voit qu'il y a, parmi ces enfants, parce qu'il y a plusieurs enfants qui sont à l'hôpital, on voit qu'il y en a qui souffrent, notamment les grands brûlés, etc. Oui. Il y a la souffrance morale, qui est également très, très présente dans l'idée d'apprendre qu'on est malade ou même d'apprendre qu'on est condamné. Donc, il y a la souffrance aussi qui est liée à la perte de l'image. Hein. Il y a l'image du monstre. Comment est-ce que j'existe dans le regard de l'autre? Et qui montre d'ailleurs d'autant plus l'importance de la relation pour soutenir cet autre-là. Et je crois qu'il y a tout un pan aussi de la souffrance qu'on rajoute dans cet univers qui est déjà de fin de vie, qui est déjà souffrant, qu'on rajoute justement lorsqu'on a un certain déni par rapport à la réalité. Je pense à la souffrance qu'Oscar va vivre par rapport à ses parents qui sont plus capables d'entrer en relation avec lui.
C'est ça, ils sont paralysés à l'idée qu'ils vont perdre leur fils. Ah, ils perdent un peu leurs moyens.
Ils sont paralysés à l'idée de perdre leur fils. Ils sont incapables d'entrer d'une certaine façon dans une relation avec lui. À partir du moment où il y a justement cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de leur enfant, on voit que ces parents-là sont mis en échec. On pourrait dire, je crois qu'il y a deux grandes figures dans ce récit qui sont mises en échec et qui souffrent de cette mise en échec. C'est d'une part les parents.
Oui.
Je crois dans leur projet parental et par rapport à tout ce que représentait cet enfant-là. Et c'est même leur, on pourrait dire, l'expression de leur amour qui est mis en échec. Et puis il y a la figure du médecin à laquelle est associée par contamination toutes les autres figures des soignants qui est mise en échec dans sa fonction de soignant. Il ne peut plus rien, il ne peut plus soigner, il ne peut plus réparer. Et là, on voit qu'avec cet échec-là, il y a une grande souffrance qui est présente. Et d'ailleurs, dans les deux cas, et pour moi, c'est une des lectures qui est très intéressante d'un point de vue théologique, c'est Oscar qui va venir délivrer ces deux figures-là qui sont prisonniers. Et Oscar devient dans ce récit-là, on pourrait dire, une figure du salut. Oui. Il y a les figures explicites religieuses, on a le Christ en croix, on va avoir le Dieu créateur, etc. Mais on a aussi des figures implicites, je pense, du christianisme, et en particulier la manière dont Oscar va réussir, par la parole, à libérer le docteur et libérer ses parents aussi.
On voit au début un petit Oscar agressif, en colère. Il est en colère par rapport à sa maladie. Par la suite, on se rend compte qu'il se passe tout à fait le contraire. Iriez-vous jusqu'à dire que c'est grâce à sa maladie si Oscar atteint la meilleure part de lui-même, s'ouvre aux autres, est confiant finalement? Est-ce que c'est grâce à sa maladie?
Je ne sais pas si c'est grâce à la maladie. Je pense qu'on doit toujours être prudent par rapport lorsqu'on parle de ça, parce qu'on a parfois tendance, et justement, le christianisme, on a eu la tendance à valoriser parfois la souffrance ou des choses comme ça. Mais ce qui est clair, c'est que la maladie, tout comme la souffrance, est un lieu de crise, et au sens étymologique, le mot crise, c'est un lieu qui devient un lieu de discernement, un certain lieu dans lequel on va apprendre quelque chose sur soi, apprendre autrement. Donc, sans faire l'apologie ni de la maladie ni de la souffrance, je crois que la manière dont Oscar va réussir à traverser cette épreuve qui, au départ, est complètement rejetée, justement dans la colère, etc., les premières réactions qu'on peut avoir par rapport à une telle annonce. En même temps, après ça, il va pouvoir tracer un chemin qui est un chemin de sens. Non pas le sens de la maladie ou le sens à la souffrance, mais le sens à la vie, à travers la maladie, à travers la souffrance et à l'approche de la mort. Et la maladie devient donc ce lieu de crise, mais ce lieu aussi d'une certaine fécondité dans lequel va pouvoir se vivre de manière beaucoup plus authentique la relation aux autres et la relation à soi. Et on est d'ailleurs dans l'étymologie même de l'authenticité. On sent que ce récit-là est très authentique et les lettres d'Oscar sont très authentiques. La relation à Mamie Rose est très authentique. Et au sens étymologique, authentique veut dire s'engendrer soi-même. Donc il y a quelque chose dans lequel, dans ces récits, dans ces relations, dans cette authenticité, Oscar s'engendre, va devenir ce qu'il était appelé à être.
Mm-hmm. Vous avez parlé tout à l'heure de ce petit Oscar qui va libérer le docteur Dusseldorf, qui va libérer aussi par la parole ses parents. Mais on peut dire aussi que Mamie Rose a libéré Oscar de l'angoisse liée au temps qui lui reste à vivre. Par quel subterfuge Mamie Rose finit par libérer Oscar?
Elle utilise en fait toute une série de subterfuges, toute une série de moyens. On en a déjà vu deux, celui de l'idée de la lutte, le type de récit, donc le récit de lutte qui arrive toujours au bon moment.
Oui.
La deuxième chose, c'est l'idée justement de ces lettres à Dieu qui ouvrent le temps, alors que le temps était un temps de condamnation. Ça devient un temps de vie. Et puis il y a toute une série, d'ailleurs, toute une autre série de choses, et en particulier, on peut regarder la manière dont Mamie Rose va entrer en relation avec Oscar. Elle va entrer en relation avec Oscar à partir d'une fragilité qui est partagée. Mamie Rose, qui est la plus ancienne des dames bénévoles, Mamie Rose qui va être comparée à, on pourrait dire, un pot de yogourt qui est passé date. Donc, elle va se situer dès le départ dans une position commune avec Oscar. Ils sont tous les deux dans un lieu dans lequel ils sont différent de ce qu'on attend. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la plus grande souffrance pour Oscar, c'est de se retrouver dans ce milieu, cet hôpital où on est censé guérir, et lui, il va mourir. Mmh. Et Mamie Rose, c'est la même chose. Elle est plus censée se trouver là parce qu'elle est justement fragile, parce qu'elle est, elle est trop vieille, etc. Donc, elle va entrer en relation avec Oscar, non pas sur une, dans une relation asymétrique, comme on l'a par exemple avec le docteur qui est supposé savoir, etc., mais à travers une fragilité partagée. Ah. Et ça devient un peu les deux qui sont hors normes dans ce lieu-là. Et c'est à partir de là que se construit cette complicité, etc. Donc, c'est toute une série de petits moyens qu'elle va utiliser à la fois pour construire la relation, soutenir la relation et permettre à Oscar de poursuivre son questionnement et de faire face à cette réalité-là. Je crois qu'un des moyens aussi, c'est de faire confiance à Oscar.
Oui,
elle lui fait confiance et elle l'amène aussi à, d'une certaine façon, faire face aux événements qu'il vit sous la forme d'un certain questionnement, et non pas d'abord et avant tout par des réponses. Le dernier petit moyen aussi que je vois qui est très intéressant, c'est qu'elle va réussir aussi à inverser la position d'Oscar. Alors qu'Oscar est en position, on pourrait dire, d'une victime, un petit peu victime du destin, victime de l'échec ou de la limite de la médecine, etc., ça va être lui qui va arriver à délivrer le docteur, c'est lui qui va arriver à délivrer les parents de leur situation d'impasse, et c'est lui aussi qui va même se proposer à adopter Mamie Rose lorsqu'il va découvrir qu'elle-même est fragile et elle-même pourrait peut-être être en fin de vie prochainement, etc. Donc voilà, c'est redonner à Oscar, on pourrait dire, une certaine identité, une certaine posture dans laquelle il va plus être simplement celui qui est le patient, qui subit, mais il va devenir véritablement un acteur, on pourrait dire un auteur de récit, et un acteur, un agent d'actes et de relations avec les autres.
Nous reprenons cette entrevue avec Didier Canepi, le professeur au Collège universitaire dominicain d'Ottawa, professeur invité ici à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Donc, nous parlons de ce récit écrit par Éric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose. Donc, un récit qui parle de ce petit garçon, Oscar, qui est condamné à mourir dans quelques jours. Nous avons vu que certaines réalités vécues par certains personnages du récit d'Éric-Emmanuel Schmitt peuvent être génératrices d'angoisse. Vous nous parliez, entre autres choses, de la mort, surtout celle des autres, de l'impuissance de ne pouvoir rien faire pour l'autre, précisément parce qu'il va mourir, des échecs, et là on pense ici aux parents d'Oscar et au docteur Dusseldorf. Dans l'accompagnement des malades en fin de vie, qu'est-ce qui peut être générateur d'angoisse? Est-ce la même chose que pour certains personnages du récit d'Éric-Emmanuel Schmitt?
Il y a certainement ce qui est générateur d'angoisse ou qui peut l'être, c'est certainement la perte. Je crois la peur de la perte de l'autre, la peur aussi de la perte, de toute une série de pertes que vit la personne qui va mourir. Mmh. On voit par exemple la peur de ne pas être accepté, hein, et c'est présent dans le petit récit aussi. Mmh. Et de cette manière-là, le petit récit est une antidote par rapport à cette peur-là, parce qu'on voit que les enfants entre eux qui forment cette communauté, eux s'acceptent tels qu'ils sont.
Oui.
Et même avec des surnoms qui touchent leur maladie. Donc, je crois que un des générateurs d'angoisse, c'est justement la peur de ne plus être accepté par les autres. Et l'accompagnement, c'est véritablement cet antidote par rapport à cette peur, cette angoisse, que finalement, par ce qu'on vit, par ce qu'on devient, on va, d'une certaine façon, ne plus être aimable, ne plus être... Il y a l'angoisse aussi, je pense, de, comme je le soulignais, de toutes les pertes qu'on doit faire, les deuils qu'on va éventuellement vivre, une perte de pouvoir d'agir, une perte de pouvoir, une autonomie qui est de plus en plus restreinte. Mm-hmm. Et dans ce petit récit, encore là, tout le jeu que va opérer l'accompagnement, c'est redonner un espace d'autonomie, un projet d'autonomie dans lequel peut être, la vie peut être vécue pleinement, densément, avec des relations, avec des événements, avec finalement une vie dans toutes ses dimensions.
Oui, et est-ce que vous diriez que c'est le rôle de celui qui accompagne la personne en fin de vie?
Je pense qu'un des rôles justement de l'accompagnement, c'est de permettre à cette personne de faire face à ce qu'elle va vivre, de pouvoir assumer ce qu'elle vit et d'une certaine façon de pouvoir justement créer un espace dans lequel il y a une possibilité de reprise, de redevenir, on pourrait dire, comme je soulignais tantôt, auteur de son récit de vie, agent ou acteur de son histoire. Et je crois que l'accompagnement, c'est justement ce qui va permettre dans un lieu et dans des événements dans lesquels on perd le contrôle, dans lesquels on n'a plus justement cette possibilité d'être acteur, d'être auteur de son récit et de son histoire, justement de pouvoir recréer ça et de pouvoir le recréer en soutenant cette possibilité-là. Et c'est la relation d'accompagnement, je crois, qui soutient cette possibilité de la personne de vivre telle qu'elle est et de reprendre une certaine emprise sur les événements, sur le réel, et également de recréer du lien avec ce que la maladie, la souffrance ou l'approche de la mort a pu mettre en danger ou mettre en jeu.
C'est très important. Dans ce récit d'Éric Emmanuel Schmitt, Mamie Rose accompagne le petit Oscar, on sait, jusqu'au bout de sa vie. Elle accorde, me semble, un pouvoir à l'expression de soi, notamment quand elle lui suggère d'écrire des lettres à Dieu et qu'elle lui dit, et là je cite, « Des pensées que tu ne dis pas, ce sont des pensées qui pèsent, qui s'incrustent, qui t'alourdissent, qui t'immobilisent, qui prennent la place des idées neuves et qui te pourrissent. Tu vas devenir une décharge à vieilles pensées qui puent si tu ne parles pas. » Est-ce juste de dire cela, hein, que l'expression de soi est majeure dans l'accompagnement d'une personne en fin de vie?
Oui, je pense que c'est tout à fait juste. Et l'expression de soi passe ici justement par la parole. Je crois que ce petit récit montre à quel point dans des situations de fin de vie, dans des situations de souffrance, dans des situations de grande fragilité, ce qui va permettre justement d'assumer ou de traverser ces épreuves-là, c'est la parole. C'est essayer de replacer la personne, de lui redonner des conditions pour devenir sujet de parole. Et l'expression de soi devient finalement cette possibilité de ne plus simplement, comme je soulignais tout à l'heure, être un patient, ou même être en attente de la mort de manière tout à fait passive, mais et de la subir ce temps-là, mais véritablement d'être replacé comme un sujet de parole, comme un sujet de récit, et d'un sujet aussi capable de créer du lien et recréer des liens avec les autres, etc. Donc, d'une certaine façon, oui, tout à fait, je pense que ce que montre ce petit livre-là, c'est que l'accompagnement peut amener la personne à repasser dans un rôle plus actif, en créant justement ces conditions pour être sujet de parole.
Oui, mais bien concrètement, pour celles qui nous écoutent et qui accompagnent quelqu'un en fin de vie, de quelle manière ça se fait ça, bien concrètement?
Alors, ça se fait, je pense, c'est difficile de donner, il n'y a pas de recette, je pense, pour l'accompagnement, mais je crois que c'est une attention, il faut être très attentif, très sensible aux attitudes en particulier. Je crois que le fondement de l'accompagnement, c'est d'un accompagnement qui est réussi, c'est de l'inscrire dans une dynamique d'hospitalité et de se dire, dans le fond, que c'est pas tant moi qui reçois l'autre pour l'accompagner que je me laisse recevoir par l'autre et qui me laisse entrer dans cette et d'ailleurs c'est exactement ce que va faire Mamie Rose. Elle va toujours être là à des moments où Oscar souhaite qu'elle soit là. Donc l'accompagnement, je crois que c'est dans cette dynamique d'hospitalité réciproque, recevoir l'autre et se laisser recevoir par l'autre. Je crois que d'une manière concrète aussi, cette hospitalité, je reprendrai les catégories d'un de mes bons amis qui est animateur de pastoral, José Pereira, et qui a écrit un petit livre justement sur l'accompagnement en fin de vie et la dimension spirituelle. Il parle d'un autre regard, une autre parole et une autre présence. Voilà les clés, je pense, des attitudes par rapport à l'accompagnement et dans l'accompagnement. Un autre regard, par exemple, de manière très concrète, on voit le regard du médecin qui est un regard qui est mis en échec, hein, parce que c'est oui. un regard qui cherche à soigner. Alors que Mamie Rose va justement avoir un regard qui va pouvoir non plus dévisager de manière triste comme un Père Noël qui a plus de cadeaux
dans
sa hotte, mais un regard qui va lui permettre à Oscar d'envisager quelque chose. Elle va véritablement regarder avec lui ce qu'il vit pour montrer que ça devient un espace encore qui peut être de créativité. Même chose avec la parole, on le soulignait justement, la possibilité que de cette parole écrite dans le récit ou cette parole échangée avec Mamie Rose devient un lieu d'un autre type de parole qu'une parole de diagnostic, qu'une parole qui finit, ou d'une absence de parole. Parce qu'on voit aussi que dans ce récit-là, ce qui fait beaucoup souffrir, c'est le silence. Non pas le silence choisi, mais le silence imposé, le silence de déni. Mmh. Et la présence, finalement, dans cette idée de l'accompagnement, c'est une manière d'être présent sans s'imposer, mais en même temps d'être présent lorsque la personne justement le souhaite. Et une présence qui devient aussi, on pourrait dire, une présence qui va appeler. Être rassuré par le fait que je sais que l'autre va être présent. Ouais. Et c'est d'ailleurs, on pourrait dire, la seule promesse qu'on peut faire dans l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement des bénévoles ou même lorsqu'on est dans le soin, les soignants aussi, la seule promesse qu'on peut faire, c'est non pas de le faire guérir, non pas qu'il guérisse, mais d'être là, de ne pas l'abandonner, d'être là avec lui et quand il en aura besoin. Je crois que donc cette idée de présence est effectivement très, très importante aussi.
Mm-hmm. Éric-Emmanuel Schmitt, on sait dans ce récit, Oscar et la Dame Rose crée dans cet hôpital un univers fantaisiste, hein, libéré parfois des convenances. Il nous propose donc cette ancienne lutteuse au langage assez coloré. Bon, est-ce que vous pensez que l'humour soit un élément important dans l'accompagnement des malades en fin de vie?
Oui, je pense que oui. Tout dépendant évidemment de ce qu'on entend par humour et le moment où on le manie. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit manier avec une grande prudence. Mm-hmm. Et l'humour, si on le voit justement dans ce récit-là, c'est un humour qui est toujours en finesse et qui est toujours d'une certaine façon adapté à la situation. Il ne s'agit pas d'un humour qui vient s'imposer ou qui vient d'une certaine façon essayer de bousculer l'atmosphère, etc.
Mais ou de masquer,
mais mm-hmm. davantage de désamorcer, je dirais, de désamorcer des situations de tension, d'essayer finalement de peut-être apparaître un peu aussi comme cet antidote à l'angoisse et d'essayer de créer un espace dans lequel justement une certaine gravité va pouvoir être évacuée pour pouvoir continuer à cheminer face aux événements et aux expériences qui sont vécues par ces enfants malades, etc. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant dans le récit, il y a l'humour de Mamie Rose, il y a l'humour mais il y a aussi tout cet humour à travers les enfants. Ces enfants malades, comme dans tout malade à l'hôpital, se forment, on pourrait dire, une certaine communauté de malades, de personnes qui s'associent, se reconnaissent à partir encore là de leur propre fragilité. Et je crois qu'il y a là quelque chose, justement, qui est vécu encore dans une très grande authenticité. Et l'humour, c'est finalement quelque chose qui nous met en contact avec cette authenticité-là, sans toutes ces barrières, etc., de convenus du langage. Il y a là quelque chose qui est plus direct et qui en même temps désamorce une certaine gravité ou une certaine lourdeur.
Mm-hmm. Tout au long du récit, Mamie Rose accompagne Oscar dans sa maladie et jusqu'à sa mort, on le sait, par une qualité de présence exceptionnelle et par un dialogue avec lui. Alors, parlez-nous de cet accompagnement ou de ces conversations entre Oscar et Mamie Rose.
Alors, c'est cet accompagnement d'Oscar et Mamie Rose, on voit d'une certaine façon qu'il est construit donc à la base sur une certaine fragilité partagée et assumée, donc qui va permettre de bâtir cette relation de confiance. Elle est construite également, comme je le disais tout à l'heure, par une dynamique d'hospitalité. L'un et l'autre se reçoivent et on pourrait dire que l'un et l'autre s'accompagnent. Et le propre, justement, d'un accompagnement réussi, je pense qu'il va se mesurer peut-être à deux critères et on les voit dans ce petit livre-là. La première chose, c'est justement que cette accompagnement soit dans les deux sens. Et c'est ce que dit la dernière lettre de Mamie Rose. Dans le fond, elle nous montre qu'en fin de compte, quelqu'un qui accompagne découvre que c'est lui qui a été accompagné par la personne malade. L'autre chose, c'est qu'on voit très bien dans ce petit livre-là, et l'accompagnement de Mamie Rose, c'est pas un accompagnement qui monopolise ou qui enferme. D'ailleurs, Mamie Rose va sans cesse essayer justement d'inclure d'autres figures. On peut penser à la petite Peggy Blue,
oui,
qui va vivre d'ailleurs une certaine relation avec Oscar, une relation privilégiée. Mm-hmm. On peut penser aux parents. Hein, elle va sans cesse essayer d'inclure les parents et de travailler justement pour que Oscar puisse reconstruire cette relation brisée avec les parents. Donc, ça montre à quel point l'accompagnement doit aussi pouvoir être ce chemin de fécondité pour d'autres relations. Et c'est parfois une tentation qu'on pourrait avoir, d'avoir une certaine exclusivité de malades. Uh-huh. Alors qu'un accompagnement, le propre de l'accompagnement encore là, c'est de faire hospitalité à d'autres dans cet accompagnement-là et à construire d'autres relations.
Oui.
Et je crois que ça, ce petit livre nous montre à quel point il y a ce chemin de fécondité de l'accompagnement pour recréer du lien.
Oui.
Qui était éventuellement brisé ou qui était mis en difficulté par les événements que vivent les personnes.
Oui, et dans ce petit récit, ça passe par des réconciliations. Hein?
Voilà, tout à fait, des réconciliations et aussi des réajustements des attentes qu'on peut avoir par rapport aux personnes. On peut penser justement au docteur Dusseldorf qui finalement va être... Oscar va l'aider à se libérer de cette culpabilité de ne pas pouvoir soigner et de ne se définir que par son rôle de soignant. Il va même l'appeler « Vous n'êtes pas le Dieu le Père
».
Et même chose avec les parents. Il va leur permettre finalement de retrouver une parole et de retrouver une certaine normalité dans la relation par rapport à eux, en prenant soin aussi d'eux, en finalement réalisant que ses parents aussi ont du chagrin, vont vivre de manière difficile une fois qu'il deviendra absent.
Parlons maintenant, si vous le voulez bien, Didier Canepil, de la relation qu'Oscar entretient avec Dieu, une relation rendue possible par et à travers l'accompagnement dont nous venons de parler. Au début du récit, on sait qu'Oscar ne croit pas en Dieu, hein, il est athée. Alors, comment Mamie Rose réussit-elle à lui faire abandonner sa position d'athée?
C'est intéressant parce que au début, disons, on peut utiliser le qualificatif d'athée. Mm-hmm. Dans le fond, au début, on pourrait dire que Dieu n'existe pas pour Oscar et qu'il s'est jamais, d'une certaine façon, posé la question parce que d'ailleurs, ses parents ne croient pas en Dieu.
Ah oui, puis et même il dit je ne t'ai jamais adressé la parole parce que je crois que tu n'existes même pas.
Que tu n'existes même pas, c'est ça. Donc, d'une certaine façon, il n'existe pas ni théoriquement et ni pour lui. Et d'une certaine façon, ce que va faire réussir à Mamie Rose pour le faire évoluer sur ce chemin-là, c'est de montrer que Dieu existe à travers la relation qu'on construit. Ce qui ne veut pas dire que c'est la relation qui d'une certaine façon va créer Dieu, mais que Dieu va réellement exister pour quelqu'un dans la mesure où il y a un aspect relationnel, dans la mesure où il y a une relation qui va s'établir. Et là encore, dans cette relation-là, il va avoir des évolutions. Au début, ça va être un peu le dieu béquille. Hein? C'est le dieu qui est intéressant dans la mesure où il peut apporter quelque chose immédiatement. Et plus le récit va avancer, et plus, d'une certaine façon, Oscar va être amené à se décentrer et à montrer que dans cette relation à Dieu se construit aussi les relations aux autres et que dans les relations aux autres se construit la relation à Dieu. Donc on a de ce point de vue-là, c'est un beau petit exercice à faire avec le livre, c'est de regarder le parcours des vœux. Oui. Parce qu'au bout de chaque lettre, finalement, Oscar, c'est un autre stratagème. Je l'avais oublié tout à l'heure de Mamie Rose, qui est de dire à Oscar, adieu, tu peux faire un vœu.
Un vœu par jour.
Un vœu par jour. Uh-huh. Et au début, justement, Oscar disait que c'était un peu, pas beaucoup de un vœu par jour, alors qu'avec les génies, on peut en avoir trois. Mais Mamie Rose l'a fait remarquer qu'on en avait trois pour toute la vie, alors que là, on en avait un par jour, et que c'était beaucoup plus intéressant. Uh-huh. Et on va voir comment, dans ce parcours des vœux, Oscar va être amené à, au départ, vouloir des choses très concrètes et pour lui, puis se rendre compte finalement de plus en plus de, dans ces vœux-là, de se décentrer de lui-même et de porter ces vœux-là sur d'autres et sur des choses qui sont possibles d'obtenir part de Dieu.
Oui, on peut donc dire qu'on passe là d'un petit garçon égoïste qui veut garder son vœu pour lui à un garçon généreux qui va demander pour Peggy Blue, qui va demander pour ses parents, pour Mamie Rose.
Voilà. Ouais. Et on va voir, c'est intéressant, on le voit vraiment évoluer d'une position vraiment, comme vous dites, d'égoïste et d'égocentrique, centré sur lui, vers une position beaucoup plus altruiste et des vœux et on pourrait dire une certaine forme de prière qui est de plus en plus altruiste et qui va porter de plus en plus sur, non pas changer le cours des événements, mais changer la manière dont on fait face aux événements. C'est très, très clair, par exemple, avec Peggy Blue, quand il s'agit d'accepter le résultat de l'opération et non pas que l'opération réussisse, etc. Mais donc, il y a toute une série de choses où il va avoir une approche qui est beaucoup plus, on pourrait dire, recentrée sur une foi qui aide à faire face aux événements, qui fortifient par rapport aux événements et non pas une foi d'une providence qui transforme les événements ou qui fait arriver des choses qu'on voudrait qu'ils arrivent, etc.
Exactement, une foi magique.
Voilà, ce n'est pas du tout une foi magique, c'est une foi encore là qui passe par une foi très, très incarnée et qui passe aussi par la qualité des relations aux autres.
Exactement. Alors, plutôt que de demander que l'opération de Peggy fonctionne bien, il va plutôt demander qu'elle soit sereine par rapport à l'issue de cette opération.
Voilà, exactement.
Okay. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler, Didier, des passages où l'auteur nous parle de l'expression croyante chrétienne?
Alors, c'est intéressant. Et comme je le disais, je pense qu'on le voit de deux manières. La première, je crois qu'il y a des passages très explicites. On peut penser à la visite de la chapelle, devant cette représentation du Christ en croix, donc du Dieu dans toute sa fragilité de la croix, Mamie Rose va montrer à quel point il y a là une proximité avec l'expérience que vit Oscar. Un petit peu plus loin, on va parler de cette représentation de Dieu dans, on pourrait dire, son acte créateur, son souffle de vie qui traverse à la fois le monde, qui recrée le monde chaque jour et qui en même temps va habiter les personnes et en particulier habiter Oscar. Donc on a vraiment déjà deux belles images, l'une avec le Dieu créateur et l'autre avec le Christ incarné et qui partage les souffrances des personnes.
Oui, en fait, c'est le Dieu proche.
Voilà, le Dieu proche, et on peut dire le Dieu proche dans le Christ en croix et le Dieu visiteur dans le Dieu de la création et ce Dieu qui va qui va recréer le monde chaque fois. Et puis en même temps, il y a, je crois, un parcours de figure implicite. Comme je le disais tout à l'heure, la possibilité, par exemple, encore là, on retrouve les deux figures quand d'une certaine façon, Mamie Rose va amener tout un espace de créativité à travers le récit, à travers tout ce qu'elle va faire. Il y a là quelque chose qui nous parle, je pense, de la créativité, de la création. La même chose avec lorsque Oscar va prendre cette figure de sauveur ou de rédempteur par rapport aux parents, par rapport au docteur. Là encore, on a des figures, je pense, théologiques derrière ces attitudes éthiques.
Alors, vous nous parlez donc de ce Dieu, de cette figure du Dieu créateur. On la voit donc de manière admirable hein, dans cette lettre à la fin du livre où Oscar découvre la présence de Dieu au cœur même de son être, comme s'il sentait le souffle passer en lui. Alors, si vous le voulez bien, nous allons d'abord écouter cette lettre écrite donc par Éric Emmanuel Schmitt dans Oscar et la Dame Rose.
Cher Dieu, merci d'être venu. T'as choisi pile ton moment parce que j'allais pas bien. Peut-être aussi que t'étais vexée à cause de ma lettre d'hier. Quand je me suis réveillée, j'ai songé que j'avais 90 ans et j'ai tourné la tête vers la fenêtre pour regarder la neige. Et là, j'ai deviné que tu venais. C'était le matin. J'étais seule sur la terre. Il était tellement tôt que les oiseaux dormaient encore. Et que même l'infirmière de nuit, Madame Ducru, avait dû piquer un roupillon. Et toi, t'essayais de fabriquer l'aube. Tu avais du mal, mais tu insistais. Le ciel pâlissait. Tu gonflais les airs de blanc, de gris, de bleu. Tu repoussais la nuit, tu ravivais le monde. Tu n'arrêtais pas. C'est là que j'ai compris la différence entre toi et nous. T'es le mec infatigable, celui qui ne se lasse pas, toujours au travail. Et voilà du jour, et voilà de la nuit. Et voilà le printemps, et voilà l'hiver. Et voilà Peggy Blue, et voilà Oscar, et voilà Mamie Rose. Quelle santé! J'ai compris que t'étais là, que tu me disais ton secret. Regarde chaque jour le monde comme si c'était la première fois. Alors j'ai suivi ton conseil et je me suis appliquée. La première fois, je contemplais la lumière, les couleurs, les arbres, les oiseaux, les animaux. Je sentais l'air passer dans mes narines et me faire respirer. J'entendais les voix qui montaient dans le couloir comme dans la voûte d'une cathédrale. Je me trouvais vivant. Je frissonnais de pure joie. Le bonheur d'exister. J'étais émerveillée. Merci, Dieu, d'avoir fait ça pour moi. J'avais l'impression que tu me prenais par la main et que tu m'emmenais au cœur du mystère, contempler le mystère. Merci. À demain. Bisous. Oscar.
Effectivement, cette lettre est très belle. C'est une lettre qui nous montre Dieu dans toute sa force de vie, dans toute sa créativité, sa création qui est une créativité, une création continue de possible, de recommencement. Et ce qui est intéressant, c'est que Oscar va constater dans le fond que Dieu, c'est cette figure, il est révélé dans cette figure de l'infatigable, l'inlassable, celui qui en permanence va justement recréer des possibilités de vie, recréer des possibilités de relations, et également un Dieu donc, comme on l'a vu, qui se fait visiteur, hein, qui est marqué par ce souffle de vie. Et on peut penser au souffle de vie de la Genèse, justement, finalement va permettre à la vie d'exister, qui va permettre à la relation de se développer. Et on voit à quel point, finalement, cette santé, cette vitalité, elle va être finalement la figure même de salut. Hein, je pense qu'il y a une expression dans cette lettre-là justement qui va dire quelle santé Dieu, et qui veut dire aussi de quel salut on pourrait dire par rapport à la vie. La santé, dans le fond, on le voit à travers cette lettre-là, c'est de créer des conditions de vie, d'ouvrir des possibles, de ne pas se résigner, de ne pas s'arrêter, de continuer. Et on pourrait reprendre une parole de Saint Paul, hein, espérer contre toute espérance. Oui. Et c'est ça que fait, d'une certaine façon, cette recréation continue. L'idée d'un regard neuf, hein, apprendre à regarder de nouveau un recommencement perpétuel, de dire qu'il n'y a jamais rien qui est figé, il n'y a jamais rien qui est complètement dans une impasse, il y a toujours moyen de repartir. Je crois que c'est ça le propre du Dieu chrétien, c'est de montrer justement que il y a pas de solution d'impasse complète, il y a pas de solution d'échec, un recommencement est toujours possible.
Ah.
Et je crois qu'il y a là dans cette belle lettre l'idée de cette nouveauté, de ce recommencement. Et on peut faire le lien d'ailleurs. Je faisais le lien entre santé et salut, qui d'ailleurs étymologiquement a un lien très proche.
Oui.
Et c'est intéressant de voir que dans le fond, dans ce petit livre là, les figures qui sont le plus en santé, ce sont les figures les plus fragiles.
Ah,
ce sont Mamie Rose, ce sont Oscar qui d'une certaine façon vont apparaître les plus en santé, et que les figures qui sont le moins en santé, c'est les figures qui justement ne sont pas malades, mais qui sont atteintes d'une autre manière, qui sont atteintes d'un certain désespoir, d'une certaine désespérance, comme les parents, comme je pense au docteur aussi. Et on voit à quel point justement cette santé est liée à ce souffle de vie, à cette création de conditions pour que la vie continue.
Mm-hmm. La dernière lettre du récit, écrite par Mamie Rose cette fois, se termine avec un post-scriptum peu commun. Hein? Alors, on peut y lire « PS, les trois derniers jours, Oscar avait posé une pancarte sur sa table de chevet. Je crois que cela te concerne. Il y avait écrit « Seul Dieu a le droit de me réveiller ». Qu'est-ce que ce post-scriptum dit-il de la foi d'Oscar en Dieu?
On peut l'interpréter de plusieurs façons. D'ailleurs, tous les post-scriptum des lettres sont intéressants. Comme
oui.
on peut faire le parcours des vœux, on
des
peut
vœux,
faire souvent
oui.
le parcours des post-scriptum et de voir que dans ce post-scriptum, donc ce petit ajout, se joue quelque chose souvent de très important. Je crois que il y a plusieurs possibilités de l'interpréter. D'une certaine façon, il y a cette idée de réveil, donc cette idée aussi de résurrection, hein,
oui,
l'idée
oui, oui.
qu'il y a là l'aboutissement de quelque chose, mais qu'il y a quelque chose de plus qui peut arriver après. Je crois qu'il y a l'idée d'un abandon, hein, de se remettre à. Et je crois que c'est ça peut-être aussi le propre, le cœur de la foi, c'est de réussir à s'abandonner, à se remettre à Dieu. Il y a aussi, je pense, l'aboutissement de tout ce chemin de sérénité. Hein, cette sérénité, dans le fond, on arrive au point où il y a une acceptation de ce terme de la vie, et en même temps de se dire il y a peut-être impossible après ça. Et que dans le fond, ce possible, s'il est là, s'il existe, eh ben c'est Dieu qui peut le rendre possible.
Ben, je tiens à vous remercier pour cette entrevue qui nous a permis, je pense, de mieux comprendre l'œuvre d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose. Ben, et du coup, peut-être, hein, de mieux accompagner les malades en fin de vie. Voilà qui est très précieux. Alors, je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Je remercie bien chaleureusement Didier Canepi, professeur au Collège universitaire dominicain d'Ottawa et professeur invité à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Je remercie René Cossette à la lecture du texte d'Éric Emmanuel Schmitt et Justine Chevary-Cossette à la technique. Merci à Francine Robert qui coordonne cette série d'émissions. Je vous rappelle que ces émissions sont réalisées dans le cadre des fêtes du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal pour Radio-Ville-Marie. C'est Christine Cossette qui vous souhaite donc une très bonne semaine. Au revoir.